la vie, notre vie, la réussite de notre vie va dépendre de la manière dont nous serons, comme nous l'avons vu, travailler sur notre cœur, persévérer à faire le bien dans un esprit d'obéissance à la vérité. L'obéissance à la vérité qui n'est pas encore nécessairement pour certaines personnes une obéissance à Dieu parce qu'elles ne le connaissent pas. Et si je réponds à une question, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à des incroyants pour les aider à avancer? Ben précisément, on peut les aider à travailler sur leur cœur en leur rappelant que, en les aidant à comprendre l'humilité comme un secret de vie. Père Thomas Philippe disait souvent à des gens incroyants de ne pas jouer un personnage. Les aider à comprendre qu'ils jouaient un personnage, les aider à se libérer de ce personnage. Ça, ça peut être une étape décisive pour leur vie qui les prépare à accueillir la grâce sanctifiante, à se convertir. Donc il y a un travail sur le cœur qui est possible avec des personnes de bonne volonté. Et puis il y a aussi le fait de les aider à rester fidèles à leur conscience, à prendre conscience de leur conscience, de ce sanctuaire secret qui est en eux, de la petite voix ténue de la conscience, et de lui être fidèle en faisant confiance à cette petite voix. Voyez, il y a toute une éducation qui est possible. Et je repense souvent à la parole de Jésus, celui qui est de la vérité. Celui qui est de la vérité, littéralement en grec, c'est quand il parle avec Pilate. Celui qui est de la vérité, écoute ma voix. La PJ traduit celui qui appartient à la vérité. Précisément, appartenir à la vérité, c'est être prêt à lui obéir chaque fois qu'elle se présente à nous. Celui qui est de la vérité, écoute ma voix. Ben, il y a encore dans le monde des hommes de bonne volonté qui appartiennent à la vérité, qui aiment la vérité et qui sont prêts donc à écouter la voix du Seigneur. Et plus ils obéiront à la vérité et plus ils seront capables d'écouter la voix du Seigneur. Après, il reste ce qui rencontre des témoins. Mais en définitive, j'ai envie de dire, c'est l'amour de la vérité qui les sauve. L'amour de la vérité. Il y a quelque chose à redécouvrir dans un monde où le mensonge devient tellement, je dirais, partie intégrante de la vie normale, hein, de redécouvrir cette première qualité de cœur qui est le fait de rester fidèle à la vérité, même au prix de la souffrance, pour reprendre des expressions de Benoît XVI. Alors je disais, voyez, il y a un travail. Il y a un travail sur le cœur, il y a un travail dans la vie, mais il y a aussi un travail qui se fait malgré nous, dont nous n'avons pas l'initiative. Un travail que souvent nous avons du mal à comprendre, mais qui se fait plus difficilement, c'est les épreuves de la vie, quoi. Le Seigneur nous travaille lui-même et il nous appelle aussi à un travail dans les épreuves. Et je dis donc que la réussite de notre vie dépend à la fois de notre persévérance à nous convertir nous-mêmes, à faire ce travail sur nous-mêmes qui dépend de nous, pour nous croyants, le travail de la prière, de la méditation, de la parole, mais il dépend aussi de la manière dont nous aurons su profiter des épreuves. La croix, quand elle nous traverse, hein, quand elle nous visite, elle est d'autant plus lourde qu'on ne l'accepte pas, qu'on bute dessus. Donc ici, il ne s'agit pas de faire du dolorisme, il s'agit de laisser les choses s'alléger dans notre vie, pouvoir les traverser sans buter dessus. Mais les épreuves sont absolument nécessaires. La vie est une grande épreuve. L'épreuve, il ne faut pas nous en étonner. Comment comprendre cette nécessité des épreuves? Je suis revenu à l'évangile. Il y a plusieurs passages dans l'évangile. L'évangile où Jésus, à chaque fois, invite ses apôtres à passer sur une autre rive. Il avait un jour qu'il monta en barque, ainsi que ses disciples leur dit « Passons sur l'autre rive du lac. » Gagnèrent le large. Tandis qu'il naviguait, il s'endormit et une bourrasque s'abattit sur le lac. Il faisait eau et se trouvait en danger. S'étant donc approché, ils le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons. » Et lui, s'étant réveillé, menaça le vent et le tumulte des flots. Ils s'apaisèrent et le calme se fit, puis il leur dit « Où est votre foi ?» Furent saisis de crainte et d'étonnement, ils se disaient les uns aux autres, qui est-il donc celui-là qui commande même au vent et au flot et ils lui obéissent. Eh bien, je vous invite déjà à penser que toute épreuve est un passage sur une autre rive. Notre vie elle-même, elle est tout entière un passage sur une autre rive. Et toute épreuve est un appel à passer sur une autre rive, à franchir une étape décisive dans notre vie. Et là, il n'y a que le Christ qui peut le faire. Nous ouvrir à une nouvelle manière de penser, de voir et de vivre notre vie. Et c'est lui donc qui appelle, c'est lui qui embarque ses disciples. C'est lui qui nous dit, dans une autre version, « Confiance, c'est moi. » Confiance, c'est moi qui t'appelle à travers cette épreuve. C'est moi qui t'embarque. Et c'est moi qui suis dans la barque avec toi. Je t'embarque, je te dis, allez au large. Les embarqua. Et je suis avec toi parce que la traversée, je l'ai faite pour toi, avant toi. Et confiance, c'est moi. C'est moi qui agis. C'est moi qui te conduis. Et vous voyez ce passage, à chaque fois que Jésus dit passons sur une autre rive, à chaque fois il y a la tempête. Et la tempête n'est pas un obstacle. La tempête fait partie du passage. Il faut que nous soyons... Comment dire? Il faut qu'il y ait... Comme pour que nous puissions nous offrir à une nouvelle vie, il faut qu'il y ait comme un ébranlement intérieur. Ça ne peut pas se faire sans quelque chose qui se brise en nous. C'est un travail d'accouchement. Et ça ne peut pas se faire sans souffrance. Ça ne peut pas se faire sans incompréhension. Maître, nous périssons. Le passage dans l'Écriture qui reflète le plus la situation de l'homme qui est confronté à la croix, au départ, c'est, me semble-t-il, le livre des Lamentations. C'est moi qui l'a conduit et fait marcher dans la ténèbre et sans lumière. Il a consumé ma chair et ma peau, rompu mes os. Il m'a fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts à jamais. Il m'a emmuré et je ne puis sortir. Il a rendu lourde mes chaînes. Quand même je crie et j'appelle, il arrête ma prière. Il a barré mes chemins avec des pierres de taille, obstrué mes sentiers. Les vraies croix, c'est quand on ne voit pas d'issue. C'est quand on ne voit pas de sens. Quand on a affaire à des décisions qui sont prises, à des injustices qui sont commises contre nous, à des événements qui nous brisent dans nos attentes légitimes, qui font qu'on ne voit plus de possibilités d'avancer. Je pense à ces personnes divorcées dont certaines se disaient, c'est fini pour moi, je ne pourrai plus jamais aimer. Là, c'est vraiment le mur. Père Thomas Philippe, il aimait utiliser l'expression les routes barrées. Les vraies croix, c'est les routes barrées. Tant qu'on voit une issue, tant qu'on peut se récupérer, se raccrocher à des branches, tant qu'on peut arriver à se tirer sur l'épingle du jeu, ça, c'est pas les vraies croix. Les vraies croix, c'est quand on est au pied du mur. Marqué, il y a des petites et des grandes, évidemment. Voyez ? Mais je vous dis ça parce que c'est pas ce qu'on aura à vivre, les uns et les autres, dans l'avenir. On vit dans un monde de plus en plus incertain. Peut-être que certains d'entre nous, vous retrouverez un jour, ça c'est les lamentations de Jérémie, vous retrouverez un jour comme Jérémie, à dire, « Seigneur, tu me fais habiter dans les ténèbres, tu rends lourde mes chaînes, je suis comme un homme mort, il n'y a plus d'espoir. » D'ailleurs, il le dit, j'ai dit, mon existence est finie, mon espérance qui venait du Seigneur. J'ai oublié le bonheur. Ça, c'est Lamentation 3. Souviens-toi de ma misère et de mon angoisse. Il parle à Dieu. Elle s'en souvient mon âme, elle s'effondre en moi. Voici ce qu'à mon cœur je rappellerai pour reprendre espoir. Reprendre espoir. Retrouver le chemin de l'espérance. Ma part, c'est le Seigneur de mon âme, c'est pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon pour qui se fie à lui, pour l'âme qui le cherche. Frères et sœurs, quelle est notre espérance dans les épreuves? Notre espérance, c'est que Jésus nous a sauvés par la croix. Croyons en la puissance rédemptrice de la souffrance. Croyons que la souffrance n'est pas vaine si nous la vivons avec Jésus. Voilà ce que je redirai à mon âme. En regardant Jésus sur la croix. Jésus sur la croix a vaincu le mal à sa racine. Ce que nous croyons, c'est que dans les épreuves, le Seigneur nous travaille à la racine. Nous avons vu que toute notre vie dépendait de la racine. Eh bien, la croix nous touche à la racine. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous sommes ébranlés en profondeur, quand c'est des vraies croix. Parce que c'est la racine de notre être que nous sommes travaillés. Et nous savons donc qu'il n'y a pas de changement profond, radical dans notre vie sans un changement profond, radical dans notre cœur. J'aime bien saint Augustin disant « Dieu veut à tout prix purifier notre cœur, à tout prix. » Alors ici, je trouve intéressant de faire une petite parenthèse en faisant une analogie avec... une comparaison avec le travail qui peut être fait à un niveau thérapeutique. Les gens qui vont voir un thérapeute, c'est pour changer leur vie aussi.
Oui, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis psychologue et j'accompagne des personnes atteintes de cancer, donc je vais parler de ce que je connais, de mon expérience, si petite soit-elle, mais bon. Oui, effectivement, alors le travail, on va dire, thérapeutique, en complément et en parallèle, va être pouvoir faire ce... Le mot qui me vient le plus, c'est ce travail de désencombrement. On va en parler après pendant l'enseignement. Mais voilà, pouvoir désencombrer un petit peu les routes. Moi, souvent, les patients, quand ils arrivent, effectivement, tout est flou, tout est très encombré, surtout dans les liens humains, dans les relations, les attentes, effectivement. Donc, il y a un travail pour les patients que je suis qui sont croyants, qui va être de déjà se désencombrer sur un plan humain, dans leurs relations humaines, pour laisser finalement plus de place et de disponibilité au Seigneur, et ensuite faire un travail, un parcours de foi, de mettre en lumière cette grande épreuve, de la mettre en lumière avec la parole du Christ, avec ce que le Seigneur peut leur dire à travers cette épreuve. Mais effectivement, un travail de thérapie, dans un premier temps, peut aider à désencombrer et à faire de la place.
Oui, mais il y a un moment où il y a un travail donc, préparatoire qui peut se faire comme ça, mais il y a un moment où les thérapeutes avec lesquels je travaille connaissent, il y a un moment où elles sont dépassées parce que finalement, quand elles sont dépassées, c'est comme elles commencent à toucher la racine du mal. Et cette racine, personne ne peut l'enlever, sauf le Christ. Personne ne peut faire passer quelqu'un de l'orgueil à l'humilité, sauf le Christ. Personne ne peut purifier en profondeur le cœur humain, sauf le Christ. Alors on peut aider la personne à se désencombrer, à se retrouver un peu plus de liberté, à retrouver un certain équilibre. On a insisté hier sur le fait notamment de l'importance du comportement. Tout ça, ça rejaillit sur le cœur aussi. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont à remettre en place, à remettre de l'ordre, à retrouver un nouvel équilibre dans sa vie. Et moi, je vous encourage tous à vous faire aider dans le rééquilibrage et le changement de comportement et tout ça. Mais la racine elle-même de ce cœur malade et compliqué, Jésus seul la connaît, Jésus seul la sent, Jésus seul peut la rejoindre. Et c'est là où je dis que les épreuves de la vie sont nécessaires.
Oui, effectivement, j'ai une patiente, mais bon nombre de patients aussi, mais avec qui, voilà, on a fait ce travail de déblaiement, de désencombrement, voilà, les chemins sont un peu plus clairs, elle peut voir qu'effectivement, avec ses proches, elle a des relations affectives de possessivité, voilà, bon, elle touche effectivement la racine, elle s'enfonce petit à petit, touche la racine des difficultés qu'elle a pu rencontrer, et de ce qui ne va pas, et puis elle en vient à se dire, bon, sans que je dise comme ce soit, évidemment, elle en vient à se dire, mais là, il faudrait que je puisse, moi, maintenant, prendre un temps, et elle voulait absolument faire une retraite. Je vais faire une retraite, et à chaque rencontre, on se voyait, elle disait, oui, je ne l'ai pas encore faite, et il faut que je le fasse. Et plus elle ne le faisait pas, plus les chemins se réencombraient, j'ai envie de dire que elle retournait finalement des anciens comportements, des anciens liens, des anciennes relations, et elle se laissait réencombrer. Elle n'arrivait pas finalement à dépasser cette racine, quoi. Et on sentait que là, elle et moi, finalement, effectivement, on butait, et qu'il y avait vraiment là un autre chemin à faire, et cette retraite, il aurait fallu qu'elle puisse la faire. Alors avec ça, je ne peux pas vous dire, je pense qu'elle ne l'a pas encore faite.
Il y a les retraites qu'on fait, effectivement, pour prendre le temps de descendre dans sa racine et de laisser le Christ nous parler à notre cœur. Et puis, il y a les traversées et les purifications que Jésus nous fait faire à travers les épreuves. Mais je ne pense pas qu'on puisse, à force de retraite, se dispenser d'épreuves. Avancer beaucoup, mais il y a un moment où les purifications, les douloureuses purifications, comme disait Jean-Paul II, sont nécessaires parce que c'est la croix qui nous sauve, parce que le péché doit être consumé. Vous savez, l'amour divin est comparé à un feu. Le feu, il purifie. Et souvent, dans l'Écriture, c'est l'or. compare la purification de l'âme à la purification de l'or qui doit passer par le feu, eh bien, la flamme, elle ne peut pas purifier sans brûler. Et quand elle brûle, nous brûle, elle nous fait souffrir. Mais c'est un peu ça, le péché profond qui est consumé par le feu de l'amour divin. Cette image-là, de quelque chose qui se consume lentement en nous, au fur et à mesure. Au fur et à mesure que quoi ? Au fur et à mesure que nous acceptons de suivre Jésus. Parce que ça ne se fait pas automatiquement non plus. On peut se refermer sur soi, on peut buter sur la croix, on peut se révolter, rester enfermé dans la révolte. Jésus ne nous sauve pas sans nous. Pour ça, c'est tellement important de savoir bien prendre les épreuves. Vraiment, je vous le redis, la réussite de notre vie dépendra pas seulement de notre vie de prière, de nos retraites, de nos thérapies, mais elle dépendra peut-être essentiellement d'abord de la manière dont nous saurons vivre nos épreuves. C'est dans ces moments-là que le travail de fond se fait. Travail radical. Là, je repense, Jean-Marc, à ton témoignage hier. Tu as dit que tu n'avais pas travaillé suffisamment sur toi. Je te dis, mais tu as pris des coups et tu les as reçus, les coups, tu les as accueillis dans la foi. Et je t'ai donné cette image du sculpteur, hein, qui, c'est Dieu, c'est un sculpteur. Et notre âme, elle est comme un bloc de marbre, et elle reçoit les coups, et elle ne sait pas que le sculpteur est en train de sculpter quelque chose de très beau, mais elle ne ressent que les coups. C'est un peu ça. Mais le fait d'accepter humblement, d'être conduit par des chemins qui ne sont pas les nôtres, de contradiction de la vie, de faire preuve d'humilité dans ces situations-là et de confiance aveugle, c'est tellement plus important que tout le reste. Si on peut en même temps pratiquer l'ascèse, faire ce qu'on a dit hier, ben oui, évidemment, il y a aussi une sanctification au quotidien qui peut se faire sans qu'il y ait des preuves particulières. Mais l'essentiel, le fond, se fait par la croix. Jésus sur la croix nous est victorieux du mal, comme dit Jean-Paul II, à sa racine. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et le péché du monde, c'est le péché originel. Donc la croix, c'est d'abord par rapport au péché originel en nous, la racine de tous les autres péchés, qui doit être extirpé. Alors, une des racines, voyez, en nous du mal, on l'a vu, peut-être la première racine, c'est l'orgueil. L'orgueil est la non-foi, la non-obéissance à la parole de Dieu. Mais ça va ensemble. On ne veut pas dépendre de Dieu, on ne veut pas dépendre de sa parole. On veut mener sa vie soi-même. La prétention à savoir et à pouvoir, je dirais, donner nous-mêmes la direction à notre vie. Bref, c'est le fils prodigue qui quitte la maison du Père pour faire sa vie par lui-même. Comme me disait un ami très blessé, moi par moi, me réaliser moi, moi au centre et moi par moi. En réalité, nous sommes tous un peu le temps, mois par mois. Tous plus ou moins centrés sur nous, et plus ou moins à nous appuyer sur nous-mêmes. Et Jésus est venu nous libérer de ça. Il est mort pour nous, afin que nous vivions plus centrés sur nous-mêmes, mais centrés sur lui qui est mort pour nous. Donc passer sur une autre vie, c'est aussi passer d'une vie centrée sur soi à une vie centrée sur Dieu. Ça, ça se fait pas sans arrachement. Et donc, le point aussi, vous voyez, c'est que dans cette vie centrée sur soi, moi par moi, on s'appuie sur notre propre capacité à penser les choses, à penser notre vie. C'est l'orgueil de l'intelligence. Qui précède l'orgueil de la volonté. La volonté d'indépendance, elle est précédée par un orgueil de l'intelligence qui nous permet justement en fait, d'être indépendants, parce qu'on sait. On sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller, on a nos certitudes. On s'est fait son image, son idée de la vie, et du bonheur, et du couple, et de la famille, et du travail, et de la réussite. On veut garder la direction du bateau, mois par mois. Bien, Jésus veut casser ça. Il n'y a rien à faire, briser. Avec douceur, mais en même temps avec force, il veut briser cette vie qui nous conduit au néant, qui nous conduit à la mort, la vraie mort, à rester emprisonnés en nous-mêmes. Il veut nous sortir de notre enfer intérieur. Le pire, ce serait de continuer à vivre comme ça. Ce n'est pas de bon cœur que Dieu afflige les fils des hommes, mais il fait parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce qu'on ne se rend pas compte que dans cette vie où on arrive à gérer nous-mêmes les choses par nous-mêmes, en restant centré sur nous-mêmes, en fait, on va à notre perte. Il n'y a rien de pire qu'une vie réussie par soi, pour soi, grâce à soi. C'est le drame du riche avec le Lazare à ses côtés, le mauvais riche. Apparemment, il a tout réussi. Hein. La vie va bien pour lui. On ne voit pas dans quel état misérable est son âme. Moi, des fois, je me dis, mais pourquoi Dieu n'éprouve pas plus les gens quand je les vois endormis dans un faux bonheur, et une fausse richesse, et un faux confort, et une fausse certitude et... Plutôt ça, moi, je dirais, pourquoi il ne les prend pas plus à la gorge? Pourquoi il les... Mais non, parce qu'il y a des paroles terribles de certains saints qui ont dit qu'ils sont tellement loin de Dieu que Dieu les laisse jouir sur terre parce que c'est l'enfer qui les attend après. Alors ils les laissent jouir comme des animaux qu'il n'y a rien à faire. Ils sont tellement enfermés en eux qu'on les laisse tranquilles. Ils jouiront un peu la vie. Tu as eu ton bonheur sur terre maintenant. Terminé. Ça m'effraie de penser ça. Non, je pense plutôt qu'il faut penser que Dieu attend son heure. Il attend son heure où la personne sera un tant soit peu prête à accepter d'être brisée dans son orgueil et dans son autosuffisance et du soi. Mais d'être éprouvé par Dieu, c'est plutôt bon signe. Puis le démon fait tout quand on est sur la mauvaise pente pour nous endormir. Il nous laisse tranquille à ce moment-là. Alors là, il ne sort pas ses griffes. Non, tout s'arrange. Vas-y, continue. Cool. Enfonce-toi, là, dans cet orgueil de la richesse. Enfonce-toi bien. À lui, il me les attend. Hein. Bon. Jésus est mort pour nous afin que nous puissions faire ce que nous sommes incapables de faire, sortir de notre prison intérieure. De ce moi orgueilleux, possessif, dominateur et jouisseur. Il y a d'autres qualités encore, j'ai oublié. La racine du mal, on a dit, c'est l'orgueil de l'intelligence. Prétention à savoir, nous, comment on va diriger notre vie, ce qui est notre projet, notre bonheur, tout ça. Vous avez entendu un livre des Lamentations. Il est bon pour l'homme de porter le joug, il est bon d'attendre en silence le salut du Seigneur. Que solitaire et silencieux il s'asseye quand le Seigneur l'impose sur lui, qu'il mette sa bouche dans la poussière. Sa bouche dans la poussière. Arrête de penser. Accepte de ne plus pouvoir penser à un avenir, de ne plus voir de sens. Accepte de voir que tu ne vois plus le sens, tissu de secours. Arrête de te raccrocher désespérément à des branches pourries. Mets ta bouche dans la poussière. Oui, mets ta bouche dans la poussière. Silence. Ça, c'est l'humiliation de l'intelligence. Quand on ne voit plus comment s'en sortir. Plus d'issue. Dieu a fermé toutes les issues. Ça, c'est les vraies croix. Ça m'arrive pas souvent, ça m'arrivait, je pense. Enfin, je vais pas compter, mais il y a des moments dans la vie où on a affaire à des vraies croix. Mais il y a toutes les épreuves, les contradictions, quand on se dit c'est pas normal, c'est pas juste, pourquoi bon, d'accord, on peut aussi mettre sa bouche dans la poussière, mais ça passe, bon, ce truc, c'est pas. Mais il y a des situations où vraiment, là, on se dit, mais ma vie, c'est fini, quoi. Par exemple, un divorce, ça peut être ça pour certaines personnes. C'est vraiment l'effondrement total. La perte d'un travail, ça peut être ça pour un homme. Se retrouver à la rue comme ça, du jour au lendemain, sans sécurité, l'effondrement total. Là, ça c'est... Voilà. Donc moi, je parle aussi pour ça. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. On peut avoir des moments très durs, vraiment très durs, des moments très durs, c'est quand on ne voit plus. Là, qu'est-ce que dit le livre des méditations? Mets ta bouche dans la poussière. Il est bon d'attendre en silence. Quelle est l'invitation du Seigneur à travers ça? Eh bien, ne plus nous appuyer sur notre propre entendement. À lâcher nos certitudes humaines. L'image que c'était ce fait de notre vie, du bonheur, de l'amour, de la réussite. Lâche. J'ai envie de dire que le sacrifice qu'il fait à Dieu, c'est un esprit brisé. L'intelligence, là. Purifié en profondeur. Le Seigneur est obligé de frapper fort parce que on a énormément de mal à changer de vision de la vie, de vision des choses. On a tous encore une fois une petite philosophie de la vie, quelque part, qui plus souvent n'a rien à voir avec la foi en réalité. C'est hérité de notre éducation, c'est transmis de génération en génération, c'est l'air ambiant de la société, on respire tout ça, et on est complètement enfermé là-dedans sans en avoir conscience. Notre petit univers de pensée, de certitude, d'idées sur... on pense pas de ça toute notre vie, ça. Et on ne s'aperçoit pas en réalité que... Il y a des horizons, des espaces, des routes, des chemins qui nous échappent complètement. On a une vie beaucoup plus rétrécie que ce que l'on croit. Enfin, que ce qui pourrait être surtout. À chaque fois que le Seigneur m'éprouve, moi, dans ma vie, j'ai quand même connu des épreuves, à certains moments, vraiment, je ne voyais plus de sens, je ne voyais plus comment aller. Eh bien, à chaque fois, c'était pour m'ouvrir à des horizons beaucoup plus larges. Respirer beaucoup plus, une ouverture, découverte d'un sens, d'une lumière nouvelle, une nouvelle manière de voir la vie, beaucoup plus large, beaucoup plus profonde. Avance en profondeur, passer sur une autre rive. Benoît XVI dit que tout accès à la vérité, toute vérité est un petit prodige. C'est la lumière de l'Esprit Saint qui nous éclaire de l'intérieur. C'est un prodige, toute vérité. Le prodige des prodiges, c'est quand on change notre philosophie de la vie. Plutôt qu'on passe d'une petite philosophie humaine de la vie, héritée de notre culture, à la sagesse divine. Un vrai regard de sagesse sur la vie. C'est ce qui fait la beauté et la grandeur d'une vie. Mademoiselle, récemment, il a parlé de la relation de Jésus avec ses disciples, des dialogues qu'il y a eu pendant ces 3 ans de formation. Il apparaît clairement qu'une profonde distance intérieure séparait Jésus de ses disciples, sans, pour ainsi dire, pas sur la même longueur d'onde. Pas sur la même longueur d'onde que Jésus. En fait, on croit qu'on est bien dans l'Évangile, parce qu'on respecte les commandements à peu près, on a une vie nette, tout ça, je suis quand même un bon chrétien. En fait, on n'est pas sur la même longueur d'onde que Jésus. On n'est pas sur sa rive à lui. On a une vision beaucoup trop étroite de la vie, et de l'amour, et du bonheur, pour être sur la même longueur d'onde que lui. Benoît XVI cherche à comprendre pourquoi, dans les dialogues de Jésus avec ses disciples, tant de fois ils sont pas à la hauteur, quoi. Ils sont à côté de la plaque. On voit bien, par exemple, avec Jacques et Jean, « Seigneur, fais qu'on ait une place à ta droite, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Mais est-ce que vous pouvez boire la coupe ?»« Ben oui, nous pouvons. »« Ben oui, enfin oui. Hein. » C'est pas ce qu'on dit, on sait boire. On est complètement à côté de la plaque. « Ben oui, ben, si vous voulez la boire, vous la boirez. Oui, » En fait, on comprend rien, quoi. On croit comprendre en plus. Enfin, on ne comprend pas. Pourquoi ? Pourquoi on est à ce point, pas sur la même longueur d'onde, à côté de la plaque ? Écoutez Benoît XVI. D'abord, il rappelle que la logique de Dieu est autre. Les pensées ne sont pas vos pensées, les chemins ne sont pas vos chemins. Et qu'est-ce qui fait la différence ? La différence, il dit, c'est que Dieu est humble et nous, on est orgueilleux. L'orgueil est l'élément clé qui fait la différence entre Dieu et les hommes. Nous, qui sommes petits, nous aspirons à paraître grands, à être les premiers. Alors que Dieu, qui est réellement grand, ne craint pas de s'abaisser, de se faire petit. Voilà la différence. En fait, la différence, c'est que nous, on pense les choses en fonction de nous. On est un peu tous au centre du monde, quoi. On a un égocentrisme tellement foncier que tout tourne autour de nous, quoi. On voit les choses en fonction de nous. Voilà, c'est la vie, c'est en fonction de ma réalisation à moi. C'est, voilà, il faut que je me réalise. Tout, on pense tout en fonction de moi, quoi. C'est moi au centre, voilà, c'est tout. C'est naturel, d'ailleurs. On a toujours vécu comme ça, mais on ne continuerait pas. Est-ce qu'on peut imaginer une vie dans lequel on s'oublie totalement soi-même, dans lequel on ne se regarde plus, dans lequel on se lâche soi-même, dans lequel on désire vraiment plus que Dieu, aimer plus que tout, plus que soi. Vous imaginez ça? Dans lequel on ne soit plus à se regarder soi-même chaque matin, en se trouvant bien, pas bien. Vous imaginez ça? Et ça, c'est la sainteté. La sainteté. Le saint, c'est celui qui est totalement libéré de son propre moi, de la prison de son moi. Il est sorti. Il est libre.
Moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont juste, enfin, ont l'illusion d'ailleurs. Je ne sais pas, je me regarde tous les matins, moi et moi, dans la glace, et qui ont l'illusion de s'occuper au contraire beaucoup des autres et d'être beaucoup à la demande des autres et voilà, et d'être centrés sur les autres, alors qu'en fait, finalement, ils sont centrés sur eux-mêmes mais sans le savoir. Et quand ils viennent me voir après, voilà, on leur a annoncé une maladie, une épreuve très difficile, ils ne comprennent pas. Ils disent, moi, je me suis donné tout le temps aux autres. J'ai passé longtemps à faire pour les autres, à être, voilà, à m'oublier, et finalement, pourquoi Dieu vient de poser cette croix? Et finalement, ils ne se rendent pas compte qu'ils n'étaient pas centrés sur les autres, mais à travers les autres, ils étaient dans l'attente d'un retour qui vienne les satisfaire, qui vienne les combler. Et donc finalement, on peut penser ne pas être centré sur soi alors qu'on l'est à 100%.
Oui, dans le monde égocentrique que nous nous construisons, je crois que nous construisons aussi une image de Dieu qui convient à ce monde égocentrique. Le Père parlait des apôtres tout à l'heure qui étaient décalés. La plupart d'entre eux attendaient un Messie libérateur politique d'Israël vis-à-vis de l'occupation romaine. Ils s'étaient construits le Dieu qui collait à leurs besoins. Quand j'étais gamin et que je me rêvais de chrétien héroïque, je m'étais construit une image de Dieu qui viendrait récompenser mon héroïsme. Et quand tes patients s'imaginent, comment dirais-je, tourner complètement vers les autres, ils se sont construits une image de Dieu qui viendrait coller à ce petit monde qu'ils se sont construits et qui viendrait récompenser leur générosité. Il me semble important de souligner à quel point nous construisons tous une image de Dieu qui nous convienne. Et il me semble important de dire que pour sortir de cela, il n'y a pas d'autre solution que de se mettre effectivement à l'écoute de sa parole et aussi de se confronter avec l'image de Dieu de son voisin. Quelle est ton image de Dieu à toi? Et de se rendre compte qu'elle est différente. Ah, c'est donc que la mienne n'est peut-être pas si géniale, complète et vraie. Attends, je ne sais pas si elle était claire. Dans notre bulle. On n'est pas dans la réalité vraie. On est plus ou moins enfermé dans notre orgueil, notre esprit d'indépendance et notre volonté propre, et pensant les choses égocentriquement, il y a un filtre entre nous et la réalité. On ne voit pas les choses telles qu'elles sont en vérité. On n'a pas accès à la lumière, à la vraie lumière, tant qu'on est enfermé dans notre mental, dans notre vision trop étroite de la vie, parce qu'elle est centrée sur nous-mêmes. Donc en fait, quand le Seigneur nous dit « passons sur l'autre rive », c'est à chaque fois pour nous faire sortir un peu plus de notre bulle. Je ne dis pas qu'il le fait tout d'un coup, mais c'est à chaque fois pour nous ouvrir à une lumière nouvelle. À nous s'ouvrir à la réalité, la vraie réalité, puissions marcher dans la lumière, pas tourner en rond. Il fait des brèches, il fait des ouvertures, il ouvre des chemins nouveaux dans notre cœur, dans notre vie. Puis on s'aperçoit d'épreuve en épreuve que la vie, elle s'élargit, la perspective s'élargit. On comprend que la vie, elle est beaucoup plus riche, beaucoup plus belle. Moi, quand j'étais jeune prêtre, j'étais un peu là-dedans. J'avais une idéal de sainteté, c'était la générosité à l'état pur. J'étais vraiment dans le moralisme héroïque. Et pour moi, c'était ça, suivre le Christ, c'était marche ou crève, c'était va jusqu'au bout du don, c'était le martyr, je rêvais de ça, enfin, voilà. En fait, je ne savais pas que je me recherchais moi-même. C'était un idéal de soi qui était là, le prêtre héroïque, voilà. Puis c'était ça pour moi, cette vie. Puis la vie s'arrêtait là. Et j'ai mis du temps à comprendre, en même temps, je me détruisais la santé, je me faisais du mal, et en même temps, je n'avais pas conscience à l'époque que c'était contaminé par une sorte d'instinct de mort en moi aussi, d'esprit d'autodestruction. Et le malin, il m'attendait au tournant. J'ai vraiment frôlé le burn-out à... Je crois que je l'ai fait sans le... Enfin, j'ai perdu le sommeil à cause de ça, mais j'ai frôlé Et Sainte Thérèse d'Avila, une fois j'avais lu Sainte Thérèse d'Avila, a dit que le problème des prêtres zélés, c'est que parfois ils se mortifient tellement qu'après ils en perdent la santé et le démon y a gagné. Ça m'avait un peu ébranlé de lire ça. Mais, tiens, oui, mais enfin non, on lit et puis en fait, non, c'est pas pour moi. Non, c'est pas pour moi, c'est pas le problème. Moi, je suis dans la suite de Jésus, je me donne totalement, c'est pas mon problème. Voilà. Bon. Frères et sœurs, on a tous plus besoin d'une thérapie de choc qu'on le pense. C'est pas, encore une fois, c'est pas de bon cœur que le Seigneur nous brise dans nos certitudes humaines, dans notre vision des choses. C'est parce que, réellement, on a tous nos enfermements. Et le malin, il est bien là. Hein. Il est dans le mensonge. Et puis, il nous tient ligotés à nos idées. Et Jésus est le plus fort. Mais laissons-le faire. Alors, dans l'évangile, Jésus, il dort apparemment, là, il dort. Il a posé la victoire. Qu'est-ce que c'est? On a l'impression que Jésus, dans l'épreuve, il dort, mais il se cache. C'est le silence de Dieu. En fait, saint Augustin, commente en disant, c'est pas Jésus qui dort, c'est la foi des apôtres qui dort. Quel est pour nous, dans ces moments, on se retrouve dans des impasses. Quelle est pour nous la seule issue de sortie de l'impasse? La foi. On a parlé hier de l'obéissance de la foi. Complet hommage de notre intelligence et de notre volonté. Le moment de l'épreuve, c'est le moment du complet hommage. Humilier son intelligence devant Dieu. Complet hommage. Mets ta bouche dans la poussière. Entrez dans le silence. Arrêtez de se raccrocher à des fausses branches, à des branches pourries. Continuez à se faire des plans de secours. Rentrez dans le silence. Pour écouter la parole de Dieu. Pour écouter Dieu qui parle dans le silence, qui parle aux esprits, à l'esprit brisé. Jésus sur la croix, il a assumé toutes nos révoltes. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a assumé tous nos questionnements. Et il veut nous faire passer d'un état de révolte, de questionnement, dans lequel on n'accepte pas de ne pas comprendre, parce qu'on ne voit pas de sens à l'épreuve, c'est absurde, c'est pas normal, c'est pas juste. On voit que l'aspect injuste humain des choses, à Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Passer de mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné à la dernière parole du Christ, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. La première chose à faire, entre guillemets, le chemin à faire, c'est de recevoir les choses, les épreuves de la main de Dieu. Réveiller la foi. Dieu est tout puissant. Rien n'échappe à sa providence. Il ne permet le mal, l'injustice, l'humiliation, les situations humainement absurdes que pour un bien plus grand. Dieu est tout puissant. Le destiné est dans sa main, pas dans la main de notre patron, pas dans la main de notre évêque, excusez-moi, pas dans la main des hommes. Elle est dans sa main à lui. Voir Dieu en tout. Réveiller la foi. Il faut s'accrocher à ça, parce que le démon fait tout pour qu'on regarde simplement l'aspect humain des choses. Mais ça, c'est pas juste, ça, c'est un péché, c'est pas normal, c'est pas juste. Je ne peux pas accepter ça, c'est pas juste. Vous savez, une fois, il y a eu un jeune saint, le petit Van, vous avez entendu parler du petit Van. Le petit Van, il était chez les rédemptoristes, il voulait être prêtre, il avait ce désir profond, voyez, depuis longtemps. Il était intelligent, mais il était d'un milieu très simple. Peut-être en raison de sa simplicité, de son inculture, le maître des novices, quand il avait 15 ans, lui a dit qu'il ne pourrait pas être prêtre, qu'il ne pourrait pas rentrer au séminaire. Manifestement, objectivement, c'était une erreur de discernement de sa part. Et pour le petit Van, ça a été terrible. Imaginez, à 15 ans, hein, son idéal de prêtre, ça a brisé par un maître des novices, enfin, un truc. C'est vraiment... Ça, c'est une vraie croix. Il était dans une colère terrible. Jésus, l'enfant Jésus qui lui apparaissait, souvent lui a dit, mais t'es comme les chiens. Quand on leur jette une pierre, regarde la pierre au lieu de regarder celui qui a jeté la pierre. Il s'attaque à la pierre. C'est qu'un instrument, ce maître des novices. C'est Dieu qui tient les choses. Ah, ça change tout. Ça change tout. À ce moment-là, il faut que je règle mes comptes avec Dieu. Si tu fasses à Dieu, mon Dieu, pourquoi tu permets ça? Avec de foi. Et cette question, mon Dieu, pourquoi tu permets ça? Il faut la poser au crucifié. Hein? Je permets ça, mais j'ai assumé tout ça. Je permets ça, mais je l'ai traversé moi avant toi. On peut répondre, Dieu permet ça parce qu'il respecte infiniment la liberté humaine, mais ce n'est pas une réponse satisfaisante pour nous. Dieu permet ça parce qu'il a assumé tout ça, il a traversé tout ça. Pour pouvoir, dans son amour miséricordieux qui assume tout, tout transformer. Et ouvrir un chemin de résurrection. Là, c'est là la foi, vous voyez, là c'est la foi, la vraie foi. À partir de cette foi, on peut avancer vers l'acceptation. Et à partir de l'acceptation, on peut avancer vers la lumière. Alors, pourriez reprendre les étapes, le déni, ça.
Ça fait une récréation.
Pour vous?
Oui.
Le processus de déni.
Oui, le déni, la révolte. Il y en a quelques mots. Hein.
Oui, oui, bien sûr. La question de l'acceptation, c'est très bien, parce que de toute façon, je voulais le dire. Voilà, on a une représentation de l'acceptation qu'on pourrait avoir en kit. Voilà, la parfaite, la bonne acceptation qui doit arriver dès le début. Voilà, des patients qui me disent « moi j'ai pas le choix, de toute façon il faut que j'accepte ». Alors ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils répriment leurs émotions, ils mettent tout dans un petit coffre-fort bien, bien rangé, et puis il s'avère bien souvent que bah, toutes ces émotions, elles réapparaissent plus tard. Hein. Donc, y a un processus, on n'accepte pas comme ça, c'est un bien grand mot, l'acceptation. Il y a tout un cheminement auparavant, donc oui, il y a des étapes, alors après il n'y a pas l'étape 1, 2, 3, 4, 5, il y a un cheminement, moi j'ai envie de dire, et on peut les faire dans un sens ou dans l'autre, voilà. Bien souvent on parle de refus dans un premier temps, de non-réalisation de ce qui est en train de nous arriver, donc on refuse, et puis bah, quand même, on est bien obligé de prendre en compte la réalité. Sauf si effectivement on est dans le déni, mais ça c'est rare quand même, puisque le déni est un mécanisme très particulier. Mais on peut être dans la dénégation, certains refus, et puis bon, quand même, on voit bien que la réalité est là, donc on est obligé de la prendre en compte, et on peut être en colère, on parle d'étape de colère, d'étape de marchandage. Voilà, bah oui, ok, alors effectivement, si j'ai tel comportement, telle attitude, peut-être que je vais pouvoir échapper quand même à cette épreuve. Voilà, on essaye de marchander un peu. Et puis après vient l'étape éventuellement de ce qu'on appelle nous la dépression. Voilà, c'est-à-dire qu'on réalise qu'on ne pourra pas, entre guillemets, reculer ou échapper ou éviter cette épreuve. Et là, effectivement, bah, bien sûr, on est dans la tristesse. Dans cette étape de dépression, Et éventuellement, effectivement, voilà, une fois qu'on a traversé ce désert, on peut arriver à la question de l'acceptation, de la libération, en tout cas de toutes ces émotions. On n'est plus dans la lutte et dans le combat comme on pouvait l'être. Toutes ces étapes peuvent prendre un certain temps, un certain ordre, en fonction de chaque personne, de chaque individu. Il faut être bien humble face à tout ça et puis ne pas hésiter justement à se confier aussi à nos frères humains en parallèle, quoi. Bien sûr au Seigneur, mais aussi à nos frères humains.
Notre humanité, notre psychisme, il a ses lois, il a sa manière de réagir. Je pense que ces étapes... Même les saints les traversent quelque part dans leur psychisme. Simplement, si on vit, nous, dans les choses, dans la foi, eh bien, ce processus, il va se faire beaucoup plus rapidement et on va pouvoir traverser tout ça, je dirais, sans s'arrêter à un moment du chemin, quoi. Parce qu'on peut aussi rester enfermé dans la dépression, hein. On peut s'arrêter là, hein. Puis ça peut être la fin du parcours parce qu'on va jusqu'au suicide. Donc, je veux dire, quand on a ce regard de foi, cette petite lumière de la foi qui nous fait dire, mais non, c'est Dieu qui est là. Peggy faisait dire à Dieu, vous savez, Jésus, dans la tempête, il marche sur les eaux, puis les apôtres ne le reconnaissent pas, et puis il dit, confiance, c'est moi qui s'approche, c'est moi qui conduis la barque. Et Peggy fait dire à Dieu, l'événement c'est moi. Moi ça m'a beaucoup aidé dans ma vie, mais l'événement c'est moi. De laisser Dieu me dire, l'événement c'est moi, n'aie pas peur. Regarde pas les hommes, regarde pas le mal, regarde pas l'injustice, l'événement c'est moi. Regarde-moi. Tu vas marcher sur les eaux avec moi si tu me regardes. Si tu regardes la tempête, si tu regardes les vagues, tu vas avoir peur, tu vas couler. Mais regarde-moi. Alors ça n'empêche pas qu'on passe par une certaine dépression, qu'on éprouve la tristesse. Encore une fois, le psychisme, il a son rythme à lui, et puis on est des êtres de chair, et la chair est faible, et puis on traverse tout ça. Mais il y a la foi qui est là, qui nous porte. Jésus nous a sauvés par son abandon. Pas la souffrance elle-même, à proprement parler, la souffrance a été la matière d'un abandon rédempteur. Par son obéissance jusqu'à la mort, jusqu'à l'angoisse, la souffrance la plus grande. Sur la croix, Jésus nous a sauvés de notre désobéissance, de notre orgueil. Il faut garder ça présent à l'esprit. Jésus m'a sauvé par son abandon. Moi, je me laisse sauver par lui, par mon acceptation. Qui peuvent aller progressivement jusqu'à un abandon total. Enfin, déjà rien que l'acceptation. Arriver à une vraie acceptation des choses. Nous permet d'être relié à Jésus dans son abandon. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais vivre les souffrances avec Jésus, en définitive, de laisser opérer son œuvre de rédemption, ça passe par l'acceptation. Il faut cheminer jusqu'à l'acceptation. Acceptation sans comprendre. Capitule au niveau de la raison. Adoption, c'est tout. Seigneur, je remets la vie dans tes mains. C'est toi le maître. Tu as décidé de me conduire par là, je m'en remets à toi. Arrête de rester enfermé dans mes raisonnements, dans ma révolte, dans mes colères. Voilà, je lâche. Dans la conversion et le calme était votre salut. Dans la sérénité et la confiance était votre force. C'est ça, l'acceptation. Et ça, mettre sa bouche dans la poussière. Tant que le Seigneur ouvre une nouvelle porte, de nouvelles perspectives, ouvre un chemin de résurrection. La accepter de passer par là, la kénose par là, une profonde mort à nous-mêmes. Dans la conversion et le calme était votre salut. Dans la sérénité et la confiance était votre force. Mais vous n'avez pas voulu, vous avez dit non, car nous fuirons à cheval. Eh bien, vos poursuivants seront rapides. Tu n'échapperas pas. Tu cherches une porte de secours, tu veux t'en tirer encore toi-même, tu n'échapperas pas. La seule vraie réponse au mal, c'est la conversion de ton cœur. Il n'y a pas de changement profond dans notre vie sans changement dans notre cœur. Laissons-nous purifier. Ne cherchons pas des issues de secours en dehors de la conversion. Qui doit prendre dans l'épreuve, donc d'abord la forme de l'acceptation, d'un chemin qui nous conduit à l'acceptation. Moi, je me souviens quand j'étais jeune prêtre, j'étais pas au clair sur moi, je ne me connaissais pas, et j'étais dans cet idéal. Donc moi, j'étais dans l'idéal de l'offrande. Alors, c'est vrai qu'on m'a fait, j'ai eu pas mal d'humiliations dans ma vie de jeune prêtre. Et à chaque fois, je disais, Jésus, je te les offre, c'est déjà bien, je le disais, mais en réalité, dans mes tripes, j'étais pas capable d'assumer, j'étais pas capable d'accepter. Et donc ça ressortait ensuite en colère. Colère qui peut vouloir revenir un an, deux ans après. Donc j'étais dans l'offrande et j'avais raté la première marche, c'était l'acceptation. Parce que j'avais refoulé toute cette réaction de la chair, tout ça. Bon, Seigneur, encore une fois, les étapes, j'ai bien aimé que Gwenaël nous redise les étapes, parce qu'on a notre humanité, on a notre psychisme, il faut accepter les émotions, il faut être à nu, en vérité, devant le Christ, lui présenter tout ça, notre état de tristesse, de dépression, de révolte, de colère, tout ça. Et puis, avec Jésus, avec ça, avec cette matière qu'on lui offre dans la confession, tout ça, et puis hop, il y a un chemin qui va se faire réel d'acceptation, et puis après, avec l'acceptation, il y aura l'offrande. D'abord, l'acceptation réelle, vraie. Bien. Il est bon d'attendre en silence le salut qui vient du Seigneur dans l'acceptation. Puis la lumière se fait, puis des nouvelles perspectives s'ouvrent, et puis de fait on arrive à rebondir. Il y a un psychologue qui a mis en évidence, qui a renouvelé un concept qui s'appelle la résilience, vous avez tous entendu parler. En fait, si vous regardez dans le dictionnaire, la résilience, c'est la capacité, la résistance d'une matière au choc. Vous voulez dire un mot ? Alors, la résilience de ce que... J'en ai compris, c'est intéressant parce que c'est basé sur la notion finalement de la capacité qu'on a de rebondir précisément, partir d'un nouveau sens, du fait, comme disent les psychologues, d'arriver à donner sens. Alors, je dirais simplement. Moi, à l'hôpital, j'ai vu des malades, par exemple, j'ai vu un malade dire, il avait une leucémie, il disait, ah, mais c'est bien pour moi parce que ça me laisse du temps pour lire. Bon. C'est bien. Oui, il avait donné sens à sa maladie, ça lui donnait du temps pour lire. Bon. Je veux bien. Ouais. Mais vous voyez tout de suite le problème, c'est que ça peut être aussi une manière de se raccrocher à des branches en se créant soi-même un sens. C'est-à-dire, question un peu de, on dit la sublimation, c'est-à-dire on se fait encore un plan de sauvetage, enfin soi-même, pour éviter la dépression, pour éviter de se retrouver de voir trop la réalité en face, on enrobe les choses en se faisant, vaut mieux ça peut-être que de déprimer, je suis d'accord, mais je voudrais simplement souligner une chose ici, c'est que ce n'est pas nous qui donnons sens aux choses, ce n'est pas moi qui crée le sens. On vit dans une société où tout nous pousse à dire c'est moi qui vais créer le sens, je vais donner sens aux choses. Non, je ne donne pas le sens, je reçois. Je reçois le sens. Le sens, c'est Jésus qui peut. Précisément, il s'agit de lâcher la direction du navire. C'est plus moi qui donne le sens, c'est Jésus. La lumière, je l'attends du Christ. Mets ta bouche dans la poussière. Alors, je ne dis pas que pour des gens qui ne sont pas croyants, la résilience, c'est très bien. Ils cherchent un sens, ils cherchent à donner sens, mais qu'ils écoutent leur cœur à ce moment-là. Qu'ils laissent ce sens jaillir de l'intime d'eux-mêmes, pas au niveau de l'imagination, du raisonnement, d'arriver à donner encore une apparence de raison à ce qui est humainement absurde. Non, mais de laisser la lumière venir de l'intérieur, parce que je suis sûr que j'ai cette évidence que Dieu éclaire tout homme dans l'épreuve. J'en ai vu des malades qui n'étaient pas croyants arriver à une conversion profonde de leur manière de voir la vie, alors qu'ils n'étaient pas croyants. La lumière se fait. Suite à l'épreuve endurée par son âme, le juste serviteur verra la lumière. S'il y a une acceptation, même de la part... Non, on peut cheminer sur un sens d'acceptation sans être croyant, hein, parce que le Christ porte tout le monde. Donc, s'il y a l'acceptation, un minimum d'acceptation, il y a une lumière qui va se faire. De fait, les personnes vont changer leur regard sur leur vie. Il va y avoir une résurrection possible dans leur vie, même s'ils ne connaissent pas encore explicitement le Christ. Mais laissons la lumière se faire. Ne créons pas des lumières artificielles. Avec notre capacité que nous avons d'interpréter les choses, de donner une signification aux choses, et tout ça, parce que nos petites interprétations et nos sens trop humains, entre guillemets, ça va s'écrouler dans quelques temps, ça ne tiendra pas la route. Le vrai sens, il peut venir que du Christ, qui parle au cœur de tout homme, il veut venir que de l'intérieur, et encore une fois, suite à l'acceptation. D'abord, suis-moi. Renonce à toi-même, porte la croix, accepte. Porter la croix, c'est accepter. Renonce à toi-même, porte la croix, suis-moi, et après tu verras la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Suis-moi d'abord, suis-moi sans comprendre, regarde-moi, fais-moi confiance, l'événement c'est moi. Ça, la foi. Bien. Oui.
Sous prétexte d'acceptation, moi pendant longtemps je me suis mis en position de victime. C'est-à-dire que, je subis des choses injustes et je les accepte pour le Seigneur sans rien dire. Et du coup, je détruisais ma vraie personnalité. Et là, c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il y a un travail de vérité à faire aussi. Et en face de celui qu'on qualifierait de bourreau, de pouvoir lui dire franchement, non, là, je ne suis pas d'accord. Donc il y a un travail, moi, je fais d'abord un travail avec Jésus, de me dire, de régler tout ce qui est colère, orgueil, enfin non-acceptation, enfin de la réalité, etc. Je fais tout le travail. Mais après, en face de la personne qui a une attitude injuste, je lui dis, là, tu n'es pas juste. Donc après, si la personne s'entête, on peut être obligé d'accepter les choses, mais on a fait la vérité, on a dit, non, là, ce n'est pas juste. Et du coup, on n'est plus en position de la pauvre petite victime qui accepte tout, mais je fais la vérité, je fais le travail que je dois faire, et après, au bout du compte, bien sûr, je rentre dans l'acceptation. Mais pour moi, ça a été tout un travail sur moi de ne pas me mettre en victime, et je l'ai encore vécu ces jours-ci par rapport à tous les ennuis que j'avais dont je vous parlais hier. J'ai eu la tentation à un moment de me dire oh ben, je suis la pauvre victime, je me fais encore agresser par tous ces fonctionnaires accrochés à leur certitude. Et puis, et là, devant Jésus, mais ça a été clair que je voyais que je me mettais en position de victime, que j'étais plus en train de voir quelle était ma responsabilité, ce que je devais faire, ce que je devais éclaircir. Donc voilà. Et au bout du compte, j'ai essayé de faire la vérité sur tout ce qu'il fallait faire. Et il y a des choses qui ont sauté, où j'étais vraiment dans le vrai. Et du coup, les choses se sont faites. Mais j'ai aussi, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ben, Seigneur, quelle est la part aussi d'acceptation que je dois faire et qui me donnera la lumière pour comprendre toute cette souffrance qui s'accumule.
Donc voilà, je ne sais pas si je suis bien claire.
Oui.
La vérité vous rendra libre.
Tout à fait. Mais vous voyez, les choses se font par degrés. On avance progressivement vers une vraie acceptation qui peut être que une acceptation au fond de notre cœur, pas une acceptation volontariste, pas une acceptation qu'on se, qui serait mêlée de plein de... contaminée notamment par une attitude victimale ou des choses comme ça. Donc la véritable acceptation peut se faire que par étapes. Mais plus on avance dans ce sens-là, plus en même temps, déjà des lumières nous sont données pour savoir ce qu'on doit faire, ce qui dépend de nous. Moi, par rapport à des décisions que je sentais pas justes au niveau de ma hiérarchie ecclésiastique, j'ai toujours écrit. J'ai toujours dit ce que je pensais. J'ai toujours réagi. Et de fait, ça a eu des effets bénéfiques quelquefois, et même ça a permis d'arrêter une décision. Parce que j'ai éclairci, j'ai fait la vérité, bon. C'est plus facile quand on... Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais... mais en tout cas... ce qui est sûr, c'est que le Seigneur nous demande de combattre pour la vérité, de toujours chercher à poursuivre un chemin de justice. Mais, voyez, si c'est sur fond de colère, de jugement, de désespérance, on ne va pas avoir l'attitude juste. On pourra trouver le ton juste, la manière juste de corriger ce qui dépend de nous pour surmonter l'épreuve, que sur fond déjà d'un commencement d'acceptation. C'est bien un commencement d'acceptation. En se situant devant Christ, voilà, dans notre confiance en lui, puis on avance avec lui. Ça se fait. Des choses se font toujours par petites étapes. Hein. C'est pas tout d'un coup l'acceptation et puis tout d'un coup la lumière. Non, c'est, les choses se font par étapes. Mais l'acceptation précède toujours la lumière. Ad lucem per crucem. À la lumière par la croix. À la lumière en acceptant de porter la croix. En vérité, pas dans une attitude victimale. Pas dans une offrande superficielle. Alors, je disais, dans les épreuves, le Seigneur veut nous amener à veut nous briser notre orgueil, l'orgueil de l'intellect, nous faire passer à une nouvelle manière de voir la vie, en touchant cette racine du mal qui est là, la prétention à savoir nous-mêmes ce qui est bien pour nous. Et dans l'épreuve, il y a aussi un chemin qui touche plutôt à la question du désir, la question de, finalement, là où on met sa joie, quel est le trésor de notre vie, qu'est-ce qu'on recherche. Ça touche à la question de l'espérance. Vous avez dit, les deux racines sur lesquelles on doit construire notre vie, c'est la foi et l'espérance, la base de tout qui nous permet de mener une vie de charité. C'est les trois vertus théologales, évidemment. Alors sur la question de l'espérance, le Seigneur veut nous purifier là, de nos idolâtries, veut nous purifier de nos attachements malsain. Vous souvenez de l'arbre qui tend ses racines vers le courant de l'eau vive. Écoutez Dieu qui se plaint. Cieux, soyez-en étonnés, horrifiés, saisis d'une grande épouvante. Oracle du Seigneur, car mon peuple a commis deux crimes. Ils m'ont abandonné, moi, la source de l'eau vive. Ils ont cessé de mettre leur joie en moi. Moi, la source d'eau vive, ils m'ont abandonné. Au lieu de tendre les racines vers le courant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont creusés des citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau. Ça, c'est l'idolâtrie. Le Seigneur, dans les épreuves, nous purifie de notre idolâtrie. Ça, c'est au niveau des désirs du cœur. Purifie dans notre intellect, il brise l'orgueil intellectuel. Purifie dans l'idolâtrie. Et pour purifier dans l'idolâtrie, il a besoin de nous conduire au désert, que nous prenions conscience que nos fausses richesses, de toute façon, sont illusoires, que rien ne peut nous rassasier. Pensez ici au fils prodigue. Tant qu'il commence à ressentir la privation qui descend en lui-même, et qu'il retrouve la nostalgie de la maison du Père. Tant que tout roule, tant que tout va bien, eh bien on se passe de Dieu en réalité. On peut toujours dire qu'on aime Dieu de tout son cœur pendant un temps d'adoration et tout ça, mais en réalité, dans la vie concrète, c'est pas vers lui qu'on tend, c'est vers ses fausses richesses dans lesquelles finalement tout baigne, quoi. Alors c'est ici que la vigne est intéressante. Je fais une petite parenthèse. J'ai un cousin vigneron. J'ai passé de longtemps au téléphone pour essayer de comprendre. Parce que j'avais lu que la vigne, plus elle souffre, mieux c'est pour elle. On me disait, c'est intéressant. Ça mène à mon nom là, la croix est nécessaire. La vigne, plus elle souffre, mieux c'est pour elle. Et pourquoi? Parce que si la vigne est sur une terre riche, vous voyez, mettez de l'engrais, mettez tout ce qu'il vous faut, une terre sympathique comme ça, ses racines vont s'arrêter là. C'est-à-dire elle va avoir tout ce qu'elle veut, elle ne va pas se fatiguer, elle va prendre, elle va produire un fruit, un vin correct, tout ça, avec ce qui est dans les premières couches du terrain. Ouais. Mais le problème, c'est que la qualité du vin va dépendre de la richesse des minéraux. Et souvent, les minéraux les plus riches, c'est dans les couches les plus profondes. Ah. Et ça, c'est ce qui fait les grands vins. Ouais. On est étonné de savoir un grand vin, ça s'arrête là, au bord du chemin, là. Terminé. Le grand vin, c'est jusque-là. En fait, c'est à 15 mètres, jusqu'à 20 mètres, que les choses se décident. C'est que là, jusqu'au bord du chemin, de fait, il y a une couche, qualité de sol, il y a des minéraux extrêmement rares, précieux, qui vont faire un vin succulent, de Sauternes. Ça s'arrête là, juste ce terrain-là. C'est là il y a des couches extraordinaires. Vous imaginez, la vigne, là, elle peut passer, la première couche du terrain était super agréable, confortable, eh bien, la vigne, elle ne se fatigue pas. Elle ne dépasse pas les 5 mètres dans ses racines, alors qu'elle peut aller jusqu'à 20 mètres. Par contre, vous voyez, s'il y a plein de caillasses, c'est surtout un peu de sable, de trucs, il n'y a rien à bouffer, quoi. Comme le fils prodigue, il n'arrive même pas à manger ce que mangent les cochons. Privation. La vigne, là, va être obligée de creuser, de descendre dans son cœur. En fait, on descend dans notre cœur, ça nous racine, jusqu'à 20 mètres. Et puis là, elle va trouver le trésor. Ah, ben voilà. Vous avez compris. Je te conduirai au désert. Là, je parlerai à ton cœur. Je te ferai découvrir des autres richesses. Et si tu passes pas par la sécheresse, la privation, si tu n'es pas dépouillé de tes habits de fête. Vous savez, dans le livre de l'Exode, au moment, Dieu dit « Enlevez vos habits de fête. » Enfin, c'est Moïse qui dit ça. C'est plus le moment de faire la fête. On enlève ses habits de fête. La vie d'amusement, le job où on s'éclate, non, on arrête là. Hein, le patron qui nous met un placard, alors on enlève ses habits de fête. On se retrouve dans un placard, c'est sûr, j'en accompagne des gens qui sont dans un placard. Là, la vigne, si on peut même plus s'amuser dans son boulot, s'il n'y a plus de challenge, s'il n'y a plus de défis, si on peut juste éclater, on va bouffer quoi? Une racine, 20 mètres de profondeur. Pas des racines, tu peux descendre. Tu vas trouver d'autres richesses. Calme-toi. Dans la confiance et le calme, tu vas découvrir une nouvelle qualité de vie. Tu vas t'irriguer à une autre source, beaucoup plus profonde. Mon vigneron disait des fois c'est la sécheresse, le climat très sec. Parce que là, la vigne, elle cherche l'eau, et puis en cherchant l'eau, elle va trouver les minéraux. Mais de toute façon, il faut qu'elle souffre pour qu'elle avance. Sinon, je vous dis, on se contente d'une bonne terre moyenne, tranquille, la vie roule, c'est bon. Ouais, une chose comme ça, dès qu'on a trouvé son petit bonheur, c'est bon, on ne va pas plus loin, hein, on s'installe. Surtout la sécurité, l'installation, c'est bien. Bon.
Et encore en plus, quand il fait froid, les protéger des intempéries, parce que sous le sol, il fait moins froid.
Ah, oui, on peut voir des choses comme ça. Mais enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la pauvreté, l'appauvrissement est nécessaire. Benoît XVI a commenté Luc 14, la parabole des invités indisponibles. Vous savez, des invités qui refusent de répondre à l'invitation, des invités qui se dérobent. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il y en a un qui dit, j'ai acheté un champ, il me faut aller le voir. Ça, c'est l'esprit de possession, la cupidité. On a quantité de biens et on repose là-dessus et on met sa joie dans le fait d'avoir une assurance, une possession. Le compte en banque. Une autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Ça, c'est le boulot. L'idolâtrie du travail. Pas de temps pour Dieu, moi. Ma vie, c'est mon travail. J'ai 5 paires de bœufs, il faut que j'aille les essayer, j'ai pas le temps de répondre à ton invitation. Toujours autre chose à faire. Hein. Bon. Et un autre dit, je viens de me marier, pourquoi je ne puis venir? L'idolâtrie de l'amour positif. Le mariage comme une impasse. J'ai rencontré un homme dans le train, une fois à 40 ans, il me disait, je pensais qu'un lien, ma maison, mon boulot, ma femme, ça me suffirait, mais il y en a pas mal qui arrivent, ça leur suffit, boulot, femme, petit chien, voiture. Tout ça, ça conduit à des vies rétrécies, hein, dans lesquelles, si on va à la messe tous les dimanches et qu'on fait sa prière le matin, on a l'impression que ça y est, c'est, les comptes sont bons. Non, les comptes ne sont pas bons. Alors écoutez Marc Robin. La souffrance atteint et déclenche nos plus intimes ressorts, les racines profondes, nous rappelle le but que nous devons tendre, parce qu'elle nous empêche de nous acclimater en ce monde. Vous avez bien entendu? Nous ne sommes pas faits pour ce monde. Les 5 paires de bœufs, la maison qu'on a achetée, le mariage, c'est des réalités de ce monde. Nous sommes faits pour une autre vie. Elle nous empêche de nous acclimater en ce monde et nous laisse comme dans un malaise incurable. Qu'est-ce en effet que s'acclimater sinon trouver son équilibre dans le milieu restreint où l'on vit hors de chez soi? Notre vraie patrie, c'est les cieux. Il sera donc toujours nouveau de dire, là où on se trouve, on est mal. Frères et sœurs, on n'est pas sur terre pour s'installer. Là où on se trouve, on est mal. Et il est bon, dit Marthe Robin, de le sentir. Le pire serait de ne plus souffrir. Comme si l'équilibre était trouvé, le problème déjà résolu. Malheur aux riches.
À chaque fois que les douleurs sont de plus en plus fortes, je dis à Jésus, je mets mes douleurs à des grandes souffrances en sacrifice d'amour pour telle ou telle intention. Est-ce que... me rappelle toujours vers le ciel. Ça ne m'empêche pas, maman, de faire tout ce que j'ai à faire, mais je me sens branchée avec Jésus.
Sans doute dans le calme d'une vie moyenne, la vie paraît souvent s'arranger d'elle-même, tout bête, ça roule. Mais en face d'une douleur réelle, il n'y a plus de belles théories qui me semblent vaines ou absurdes. C'est-à-dire qu'il y a tout un monde d'idées, de belles pensées qui s'effondrent. Dès qu'on en approche, on éprouve quelque chose de vivant et de souffrant. Les systèmes sont creux, les pensées restent inefficaces. La souffrance, c'est le nouveau, l'inconnu, le divin, l'infini, qui traverse la vie comme un glaive révélateur, nous montrant les désirs du Christ dans chacun de nous. Encore une fois, il faut ça pour sortir de notre bulle, de notre illusion, de notre autosuffisance, de notre vie installée. Il faut l'accepter, ça. Le Seigneur y voit plus loin que nous. On est comme des petits bébés, en fait, qui ne comprennent rien, rien à la vie, et puis on est là en disant, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Écoute ton papa. Voilà. T'as un père aux cieux, qui s'occupe de toi, qui sait ce qui est vraiment bon pour toi. Voilà. Il veut te conduire plus loin. Toi, tu veux rester comme t'es, comme toujours, tu veux continuer à vivre ta vie, tout ça. Maintenant, c'est pas ça, c'est pas ça. Puis de toute façon, lui, il lâchera pas. Il veut à tout prix nous sauver. Donc, ou on capitule, ou on dit, ben, Seigneur, tu me conduis sur des chemins qui ne sont pas les tiens, j'accepte, ou alors on se bute, et puis on se fait encore plus mal. J'ai envie de dire à ceux qui sont inquiets d'amasser pour leurs enfants, parce qu'on trouve ça aussi. Ça me dit, mais moi j'ai besoin de sécurité, c'est pas pour moi, c'est pour mes enfants. Il faut que j'amasse. Bon. J'ai envie de leur dire une chose. C'est pas le compte en banque qui protège de la dépression, qui protège des épreuves, ça n'a jamais protégé personne. Hein. C'est un faux appui. Hein. Bon, mais surtout, c'est surtout que la plus grande richesse puissiez transmettre vos parents à vos enfants, c'est votre foi et votre espérance. C'est qu'ils vous voient vivre dans la foi et l'espérance, sans appui et pourtant appuyé, sur Dieu, Dieu seul. Ça, c'est la plus grande richesse. Parce que ça se transmet de soi. Et c'est ça qui leur permettra de traverser les épreuves inévitables de la vie. Vous n'êtes pas là pour protéger vos enfants comme dans un cocon en leur disant voilà, moi j'ai assuré l'avenir de mes enfants. Non. Vous êtes là pour les lancer dans la foi et l'espérance, qu'ils vivent leur vie avec le Christ. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes ne font que chanceler. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leurs forces, ils déploient leurs ailes comme des aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Voilà le programme. Pour vous et pour vos enfants, dans un monde qui forcément sera difficile. L'espérance qui nous fait regarder vers les réalités d'en haut, qui nous fait nous raccrocher à la source d'eau vive, l'espérance c'est la vertu dynamique. Il n'y a pas de désir plus profond que le désir de Dieu. Quand on a repris contact avec ce désir de Dieu, qu'on commence à mettre à nouveau sa joie en Dieu, eh bien on est sauvé. Parce qu'on est porté par un dynamisme incroyable, intérieur. Pas le faux dynamisme du jeune cadre dynamique qui s'éclate et tout ça. Ça, ça reste au niveau psychique. Mais il y a un dynamisme plus profond. C'est celui de notre élan vers Dieu. Si on retrouve ça, si on arrive à enfoncer les racines, à les faire descendre jusqu'à reprendre contact avec Dieu, jusqu'à la source d'eau vive, à ce moment-là, il y a de fait, ces prophéties d'Isaïe qui se réalisent. On déploie ses ailes comme un aigle. Plus rien ne peut nous faire peur de toute façon, parce que Dieu, personne ne pourra nous l'enlever. Et ça, ça veut dire aussi, vous voyez que faut pas attendre les grandes épreuves pour mener un certain renoncement à certaines jouissances. Saint Thérèse d'Avila a dit à un moment que la prière et la mollesse ne font pas bon ménage. Ne laissons pas aller à une vie de trop grand confort, de trop grand... un style de vie sobre, voilà, et simple. Ne laissons pas notre cœur s'appesantir dans la débauche, l'ivresse, les soucis du monde. C'est l'évangile d'hier. Restons éveillés, c'est-à-dire ouverts à Dieu, avec le désir de Dieu, de maintenir éveillé ce désir de Dieu, du royaume de Dieu, à travers une vie sobre. Parce que si dans l'ordinaire, on se gave l'esprit et le corps de petites jouissances immédiates, par moment de l'épreuve, on risque d'être un peu désarmé. Soyons sobres en vue de la prière. Le jeûne, un certain style de vie, et puis d'apprendre aux enfants aussi à mener une vie sobre. C'est l'évangile d'aujourd'hui.
Et je pensais à tout ce qui était écran, jeu, etc. Parce que c'est une petite bataille avec mon épouse. En fin de compte, en écoutant le Père Louis, je comprends là que le fait qu'il n'y ait pas d'écran à la maison, mis à part une télé, qui est contrôlée en tous les cas, que ça contribue à l'ouverture de cœur. Qu'on essaye de donner à nos enfants et aussi à cette espérance qu'on veut. C'est qu'on aimerait leur laisser et leur donner pour plus tard.
Je vais terminer parce que je voudrais qu'on termine par un temps d'adoration, éventuellement un petit temps de partage aussi, mais je voudrais terminer par le témoignage de Van Toine. Parce que c'était un très bon évêque. Il a été nommé jeune évêque, il était fervent, il faisait beaucoup de bien. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé en prison, il n'était plus rien, il ne pouvait plus rien. Il a passé 9 ans en cellule complètement isolée. Il a dit qu'il n'était pas devenu fou parce qu'il y avait une petite fenêtre et il voyait encore une branche d'arbre. Le printemps, il savait que c'était le printemps, enfin. Et vraiment, on a tout fait pour le faire craquer cet homme. Et qu'est-ce qui lui a donné la force de tenir, en définitive? Il le raconte lui-même. Parce qu'au début, évidemment, devant une telle croix, il s'est révolté aussi, tout bon évêque qu'il était. Écoutez-le. Hein? Une nuit, alors qu'il était dans ses pensées encore trop humaines, une nuit, une voix m'a dit au plus profond de mon cœur, « Pourquoi te tourmenter ainsi ?» Il avait commencé à faire plein de projets apostoliques sur son diocèse et ça marchait du tonnerre. Les séminaires, les religieux, il s'occupait des couples aussi, c'était vraiment le super évêque. Du jour au lendemain, tout ça brisé. Une nuit, une voix m'a dit au profond de mon cœur, « Pourquoi te tourmenter ainsi? Tu dois faire la différence entre Dieu et les œuvres de Dieu. » Tout ce que tu as accompli et que tu désires continuer à faire, les visites pastorales, la formation des séminaristes, des religieux, des laïcs, des jeunes, les constructions des écoles, des foyers pour étudiants, les missions pour l'évangélisation des non-chrétiens, tout cela est excellent, ce sont les œuvres de Dieu, mais non pas Dieu. Si Dieu veut que tu abandonnes tout cela, fais-le tout de suite, aie confiance en lui. Dieu fera les choses infiniment mieux que toi, confiera ses œuvres à d'autres qui sont bien plus capables que toi. Tu as choisi Dieu seul, non pas ses œuvres. Et qu'est-ce qu'il dit? Cette lumière m'a apporté une paix nouvelle qui a totalement changé ma manière de penser et m'a aidé à dépasser des moments physiquement à la limite du possible. Ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leurs forces et déploient leurs ailes comme des aigles. Je ressentais ma faiblesse humaine, je renouvelais ce choix face aux situations difficiles et la paix ne m'a jamais manqué. C'est ça, dans la vie, l'important, c'est de garder la boussole. Si réellement on vit pour Dieu, face à Dieu, qu'on a mis en Dieu notre joie et notre bonheur, rien ne nous abattra. C'est la force de l'espérance.